Donc, en fait, ce soir, je vais continuer ce qui a été, comme l'a dit Eva, ce qui avait été partagé depuis un certain nombre de semaines. J'ai oublié. Non, c'est juste que j'avais les images pour moi, mais j'avais oublié de vous les mettre pour vous, donc mieux, on va partager. Donc depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je veux dire, on parle autour de ce texte d'Ésaïe, et je vais, comme l'a dit Eva, très justement, je vais continuer sur ce... Alors, juste... C'est une habitude que j'ai d'intervenir. Je préfère poser quelques principes au départ. Il y a une expression en France qui dit « ça va sans dire ». D'accord ? Ben moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est mieux en 10 ans. D'accord ? Alors, quelques principes de ce que j'ai... voilà, pour ne pas se tromper. Ce que nous allons évoquer n'a pas pour but de condamner qui que ce soit. C'est vraiment... on va parler de choses, mais il n'y a aucune condamnation là-dedans. On peut tout être concerné à un moment de notre vie, soit on a été concerné dans notre passé, ou ça l'est encore aujourd'hui, ou on le sera dans notre avenir. Le but est de comprendre que nous vivons les comment on vit les événements. C'est-à-dire que ce qu'on va discuter ce soir, ce qu'on va partager ce soir, c'est comment ce que nous vivons de l'intérieur peut avoir un effet sur notre corps. Et comment Dieu veut que nous vivions ces événements. Les événements de notre vie, de notre quotidien, peuvent avoir un effet sur notre être. Et chacune, il faut bien comprendre que Dieu nous a donné des compétences, des aptitudes qui sont différentes. Ne portons pas de jugement sur ce que vit l'autre, nous ne sommes pas dans sa vie, son esprit, son âme et son corps. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que les unes ou les autres, on a déjà compris. Et puis celle qui est à côté de nous, elle n'a toujours pas compris, franchement. Et pour celles qui ont un petit peu d'années de parcours avec Dieu, mais même les autres, vous vous apercevez, on sait, que le cheminement se fait d'étape en étape avec Dieu. Et peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà compris. Peut-être que ce que je vais apporter ce soir ne va pas être nouveau pour vous. Alors, si vous ne vous sentez pas concerné, ce n'est pas grave. Priez pour celles qui sont à côté de vous. Au mieux, ça pourra leur servir. Alors, je repars d'Ézéchiel 37. Je vais faire très court sur le début, puisqu'on l'a déjà beaucoup vu. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Souviens, c'est le départ d'Ézéchiel 37. Il me fit promener près d'eux, donc des ossements, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables. Sur toute l'étendue de la vallée, qu'ils étaient totalement desséchés. Donc là, on n'a pas de mal à comprendre qu'il n'y avait plus de vie. C'était des êtres humains, et ils étaient sans vie, complètement éparpillés, sans cohérence entre eux. Il y avait plus de cohérence, hein. Vous imaginez des eaux jetées comme ça, bouleversées par le vent probablement. Et il me demanda, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Et je répondis, « Toi seul le sais. » Dieu va interpeller Ézéchiel sur ce qu'il croit et ce qu'il est prêt à vivre. Et je vous renverrai vers les messages d'Eva. Elle avait longuement parlé sur ce thème. Et il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ose dessécher. Écoutez ce que dit l'Éternel. » C'est-à-dire que Ézéchiel, à ce moment-là, il doit parler, il doit ouvrir la bouche, il doit parler aux ossements. Il aurait pu refuser à ce moment-là, il aurait pu choisir de se taire, mais Dieu lui dit, vas-y. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Donc en fait, Dieu à ce moment-là donne le programme à Ézéchiel. Voilà ce que je vais faire. Je vais les recouvrir de nerfs, de chair, de peau. Et je mettrai en eux l'esprit et vous vivrez. En fait, j'ai juste un doute. Voilà. On est dans le début d'un processus, on est face à des os qui sont desséchés, qui n'ont pas de nerfs, c'est-à-dire pas de sensibilité. Pas de... Ce qu'on peut comprendre dans cette notion de nerfs, ce que moi je mets derrière, c'est notre système nerveux. On peut imaginer qu'à l'époque d'Ézéchiel, on n'avait pas encore inventé l'IRM et on était très loin de comprendre la nat physio. D'accord ? Dans ce qu'on appelle, nous, le système nerveux, il y a le cerveau qui descend par la moelle épinière et par les nerfs qui arrivent jusqu'au bout de nos doigts les plus extrêmes. C'est aussi le système nerveux, c'est aussi ce qui nous permet de ressentir. Vous connaissez les cinq sens, ça passe par le système nerveux, mais aussi, moi je rajouterais un sens à ces cinq sens, dans ce que l'on ressent, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose dont on a besoin et qu'on ressent, c'est notre sensibilité. C'est aussi ce système nerveux qui nous permet de commander notre corps. Vous savez que les personnes qui ont une rupture au niveau de la moelle épinière ne peuvent plus commander leur corps, plus rien ne fonctionne. C'est un peu comme ma tablette. Et donc, notre corps ne fonctionne. Alors, il y a des parties de notre corps qui fonctionnent à notre insu, heureusement encore, parce que vous ne réfléchissez pas pour... ni pour respirer, ni pour que votre cœur y batte, hein. Ça va. Mais par contre, si vous voulez vous déplacer, c'est vous qui commandez votre corps. Aujourd'hui, ça vous paraît naturel. Rappelez-vous, regardez les enfants autour de vous, à la base, c'est pas si naturel que ça. Hein. C'est un apprentissage. Et c'est une motricité. Le système nerveux aussi, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'analyser, d'examiner ce que nous vivons, c'est notre intelligence. Et puis, donc à travers ce système nerveux, on peut faire le parallèle avec l'âme. L'âme, c'est donc ce qui, par rapport à Dieu, on va le revoir, notre âme, c'est notre volonté, c'est nos ressentis, c'est notre sensibilité et c'est notre intelligence. Et puis il y a la chair. La chair, on peut dire que c'est les muscles d'abord, qui nous permettent de tenir debout, par exemple. Vous savez qu'un squelette, ça ne tient pas tout seul debout. Hein. Si ce n'est pas relié par des tendons, des muscles et tout ça, ça ne tient pas. Et le fait de tenir debout, c'est qu'on a un équilibre dans notre corps, normalement, qui fait qu'on tient debout. Et sans les muscles, ça ne tiendrait pas. Normalement, il n'y a pas non plus de digestion. D'accord ? La digestion, c'est ce qui nous amène l'énergie, le carburant pour tous les jours. Et puis la circulation, c'est ce qui permet à notre corps d'être alimenté. C'est ce qui permet que ce que vous mangez nourrisse vos muscles et votre cerveau. Le cerveau, il faut le nourrir, c'est très consommateur en sucre. Et puis, il y a la peau. La peau, d'abord sur notre visage, c'est elle qui va nous donner notre apparence. Vous voyez, des fois dans les films, on voit qu'il n'y a plus qu'un squelette. Et il faut reconstituer dessus, c'est notre apparence, c'est notre expression. Notre expression permet aussi aux autres de voir ce qu'on ressent. Ça communique aux autres, même si vous ne parlez pas. D'accord ? Si à travers notre peau aussi, elle va nous permettre de protéger notre organisme des intrusions extérieures vers l'intérieur. Sinon, quand vous prenez votre bain, vous seriez dilué. D'accord ? C'est la peau qui protège. Et puis, elle empêche ce qu'est à l'intérieur d'aller à l'extérieur. C'est pas plus mal, parce que ça serait compliqué. Donc, elle a un vrai rôle. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est que les verbes sont des verbes d'un processus. C'est-à-dire qu'il y a un processus, les mots, il y a des mots de croissance, il y a des mots de processus. On voit que dans les verbes qui sont utilisés, il y a mettre, il y a faire croire, il y a recouvrir. Et on voit que c'est un processus, c'est une progression. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose immédiat tout de suite. On peut imaginer que, et on va le voir dans le texte, qu'il y a un processus qui va se mettre en place. Et puis à la fin, il est dit qu'il va y avoir le souffle de l'esprit. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce souffle de l'esprit, on aurait un corps qui aurait tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais qui n'aurait pas de vie. Et vous savez ce que ça donne à un corps qui a tout ce qu'il faut et qui n'a pas de vie? Comment?
Un cadavre.
Ça s'appelle un cadavre. Et l'avenir du cadavre, c'est la décomposition. D'accord? Donc, là, il est important qu'il y ait ce souffle. Et donc, on va reprendre le texte. Et je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Donc, sur la parole du prophète, les os, ils vont se rapprocher. On peut imaginer qu'ils ne vont pas se mettre au hasard. Alors, je ne retiens jamais le nombre d'os qu'il y a dans le corps humain, mais c'est un truc phénoménal. Imaginez rien que dans votre main, au niveau de vos doigts, chaque doigt, vous avez 3 os. Combien il y en a ?
206.
Ouais, chacun sa valeur. Merci Aurélie. Donc vous voyez 206 os, s'ils se mettaient un petit peu... C'est une charpente hyper... Il y a un équilibre, il y a une architecture, d'accord ? Et il y a un mouvement, et il y a du bruit. Vous savez, le bruit, quelquefois, ça dérange. Hein, on peut le dire. Ça peut faire peur. Mais quand il y a un silence total, ça fait penser à quoi ? À la mort. D'accord ? Ce bruit, c'est la vie qui arrive. Et si vous regardez bien, il y a d'abord un bruit, et après un mouvement. On aurait pu l'attendre dans l'autre sens. Il y a d'abord ce bruit, puis ce mouvement. La vie arrive. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas l'esprit en eux. Alors, plutôt que de vous faire un grand schéma, j'ai amené... Arthur. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la version féminine. On voit que il va y avoir... Alors, les nerfs, non, là, je n'ai pas le système nerveux, désolée, j'aurais pu l'avoir en vidéo, je n'ai pas pensé à la mettre. Il va y avoir des nerfs, il va y avoir de la chair, donc là on aperçoit un peu les muscles, on aperçoit aussi à l'intérieur, je vous promets, il y a un ordre pour mettre à l'intérieur, j'ai essayé de le défaire et de le remonter, Dieu nous a mis un ordre à l'intérieur, Dieu va remettre les choses de façon à ce que ça fonctionne, et puis la fameuse peau, comme je vous disais, qui recouvre tout, vous imaginez si on vivait comme ça, vive ta calère. Donc, il va les recouvrir de peau, mais il n'y avait pas l'esprit en eux. La seule avantage qu'il a, c'est qu'il ne va pas se décomposer. D'accord ? Il prend la poussière, mais il ne se décompose pas. Mais nous, nous ne sommes pas en plastique. Nous sommes des êtres de chair. Alors l'esprit me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise et dit à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des 80 vents, des 4 coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. C'est-à-dire que même reconstitués, il va falloir que l'esprit vienne en eux et que l'esprit leur donne cette vie. Et Eva nous avait longuement parlé sur cette vie qui devait être amenée dans nos vies par l'esprit. On peut être mort et ne pas le savoir. Et si l'esprit nous le dit... vraiment supplier l'esprit de venir. Je prophétisais comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ça, c'est le passage que je préfère. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ce fut une immense armée. C'est-à-dire que non seulement ils ont repris vie, mais ils se sont levés sur leurs pieds. C'est-à-dire que la fin du processus, c'est qu'ils sont debout, et j'ai envie de dire la tête haute, dressés sur leurs pieds. Vous savez, ça fait penser à ces enfants quand ils veulent faire peur aux copains. Ils se dressent sur leurs pieds pour essayer de se faire le plus grand possible. Et là, ils sont une immense armée. C'est-à-dire que quand l'esprit vient, on l'appelle, ils sont prêts à se battre. Cette immense armée, c'est aussi qu'on n'est pas seul dans ce processus. On passe toutes par ce processus. Et une immense armée, vous savez pourquoi? S'il y a une armée, c'est qu'il y a un combat. Il y a aussi une victoire. L'idée, c'est que Dieu veut que nous soyons en forme pour agir. Autour de nous, dans notre société, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent dans tous les sens quelque chose pour les aider à vivre. C'est une recherche qui peut aller très très loin et on est plusieurs à le savoir. Ce que je veux apporter ce soir, c'est aller un petit peu dans un autre versus de ce qu'on a vu jusque-là en complément. Et donc on va reprendre un petit peu tout ça. Juste le lien, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse le lien entre cette vie que Dieu veut nous amener et cette reconstitution du corps. Alors, quel est le lien entre l'esprit, l'âme et le corps? Est-ce qu'il y a des liens? Alors d'abord, je vais juste survoler ce que vous avez dit Eva. Ce qu'elle nous avait dit, c'est que nous sommes en trois parties. Un esprit, c'est ce qui est ressuscité en nous quand Christ vient dans nos vies. C'est ce qui est mort quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. On a une âme et on a un corps. Donc l'esprit, c'est le cœur de notre vie normalement, et quand elle est coupée de la présence de Dieu, elle ne nourrit plus l'être intérieur. C'est-à-dire que l'esprit, il nourrit l'âme, où nous avons nos émotions, notre volonté, notre intelligence, et c'est ce qui pilote nos actions, c'est ce qui nous fait décider pour notre corps. Et puis notre corps, je l'ai dit, c'est ce qui est en contact avec l'extérieur, c'est ce qui est source de plaisir, de déplaisir, et le corps dépend souvent des décisions de l'âme. Et dans tout ce que je vais dire, il ne faut pas oublier qu'on est dans un processus de croissance. Vous savez, quand un bébé il naît, il porte un nom, un prénom, il a une identité à l'état civil, il est une personne à l'état civil, ça ne vous viendrait pas à l'idée de lui dire « lève-toi, cours, saute, d'accord ? Tiens, je te donne les clés de l'appartement, débrouille-toi. » Liliane qui me regarde en se disant « Mais comment elle a fait pour retenir des trucs pareils ?» Non, non, mais ça ne se fait pas. Hein, vous savez toutes, vous savez qu'un bébé, et pourtant dans ce bébé, il y a tout ce qu'il va être plus tard. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie spirituelle, quand on renaît en Christ, il faut accepter de renaître dans cet état de bébé. Il ne faut pas s'attendre à être adulte le lendemain. Mesdames, imaginez si vous aviez accouché d'un adulte. Donc nous sommes dans un processus de croissance. Et vous savez quoi ? Ben, on a un modèle dans le domaine. Alors, une croissance de tout notre être, tout comme Jésus. Il y a un verset dans Luc qui dit que Jésus continuait de grandir, son intelligence s'affinait, et il se rendait toujours plus agréable aux hommes, à Dieu et aux hommes. Ici, nous avons ce processus de croissance. Donc, il a grandi physiquement, effectivement, on peut remarquer qu'il n'était plus un bébé. Son intelligence s'est affinée, et il a eu cette croissance spirituelle qui fait qu'il était agréable à Dieu et aux hommes. C'est-à-dire que Jésus, il y a un autre verset qui dit que Jésus a appris par les choses qu'il a souffert. Jésus a été dans un processus comme nous. Jésus n'a pas commencé à prophétiser à la mamelle, comme ça peut être dit pour certains. Jésus, à 12 ans, il savait déjà ce qui l'attendait. Je me demande toujours, il a attendu 33 ans, je pense que c'était une question de maturité, parce que honnêtement, l'équipe des 12 qui devait coacher, ça demandait une certaine maturité et un certain don. Et puis parce que l'œuvre était grande, mais on voit bien que des fois on veut aller très vite. Vous savez, un jeune enfant, si vous l'écoutez, il est capable de faire des trucs extraordinaires. Faut juste quelquefois le retenir un petit peu. D'accord ? Donc, si Jésus était dans un processus, ce qu'il faut entendre, c'est que nous aussi, on est dans un processus jusqu'à la maturité de tout notre être. Et donc, il ne faut pas se décourager, d'accord ? On va passer par le stade de l'enfance, la petite enfance, puis l'enfance, puis l'adolescence. Pour certains, il y a des chaos, ça secoue, ça... Et puis après, il va y avoir le stade adulte, et c'est pas gagné, c'est pas simple tous les jours. Donc, ça, c'était pour la notion de processus. Maintenant, les liens entre le corps, l'âme et l'esprit. Un des premiers liens, c'est tout ce qui touche aux émotions. Je vous ai dit, l'âme, c'est le siège des émotions. Dina nous avait fait un message là-dessus et j'ai repiqué son image parce que je la trouve complète. Sur toutes les émotions par lesquelles nous pouvons passer, c'est notre quotidien, les émotions. Qu'on les exprime ou qu'on ne les exprime pas, nous les vivons, ces émotions. Et ces émotions, elles peuvent nous envahir, elles peuvent de temps en temps reculer, on peut les mettre de côté, mais elles sont toujours présentes. On a tous une gestion des émotions qui est différente. Il y a des personnes qui vont plus les laisser voir, il y en a d'autres qui vont plus les enfouir. Mais la colère, la joie, la tristesse, la surprise, la honte, la culpabilité, tout ce qui avait été évoqué, nécessairement on le vit. Alors comment ça se passe? Comment ça retentit sur le corps? La plupart du temps, les émotions, sauf chez les acteurs, elles se voient sur nous. D'accord? Elle se voit sur nos visages. Hein, quelqu'un qui a peur, on a les yeux qui s'ouvrent tout grands. Quelqu'un qui a honte va devenir tout blanc ou tout rouge, ça dépend des gens. Quelqu'un qui a du dégoût, voilà. La tristesse, si la personne ne fait pas semblant, vous allez vite la voir. Ce sont les émotions, on les voit sur le visage. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que ça envoie des messages. D'accord? Je me souviens d'une année en cours, j'avais des élèves qui ne bossaient pas les deuxièmes années, on était à quelques semaines du BTS, et j'ai un petit peu rappelé les consignes et qu'il fallait travailler et tout. Et puis les salles de cours où j'étais à l'époque étaient vitrées au fond. J'étais avec les deuxièmes années, et elles s'en vont, et les premières années arrivent. Et là où je suis très redoutable, c'est quand je parle calmement. C'est-à-dire que je ne hausse pas la voix quand je m'énerve. Ou du moins quand je suis très en colère, je n'ose pas la voix. C'est un signe qu'il faut se méfier. Et les premières années sont rentrées et m'ont dit « Ça va, madame ? Vous n'êtes plus en colère ?» Ça se voyait tant que ça. Nos expressions ont pour but de renseigner les gens en face. Alors, on peut avoir, de fait de son enfance, de certains nombres de raisons, appris à les masquer. Ça n'empêche qu'elles sont toujours là. Et c'est toujours du ressenti. L'émotion, c'est un sentiment intérieur qui se transforme et qui monte. Et ça peut avoir du retentissement sur le corps. Vous avez toutes pensées, des émotions qui coupent l'appétit, ou pour certains, qui l'ouvrent. Hein, vous avez des personnes, quand elles ne vont pas bien, elles ne mangent plus, puis vous en avez d'autres, elles dévorent. On peut, par exemple, avec la peur, certains sont figés. C'est ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire on ne réagit pas. Et puis il y a ceux qui partent en courant et qui ne réfléchissent pas. D'accord ? Donc, on a ces émotions pour avoir un retentissement sur le corps. Et puis, vous imaginez tout ce que peuvent nous faire, tout ce qu'on vit avec les émotions, tout le retentissement qu'il peut y avoir sur le corps. Vous avez des gens, quand ils sont heureux, ils sautent partout. Je suis sûre que même les Anglais qui ne montrent pas leurs émotions, il paraît que dans les stades, ça se montre. Mais même les Anglais qui ne montrent pas les émotions, je peux vous assurer, je suis sûre qu'ils les vivent. Sauf que ces émotions, ça a un coût sur l'organisme. Parce que vous avez dû apprendre qu'on ne peut pas exprimer toutes nos émotions tout le temps comme on les ressent. C'est ce qu'on apprend à l'enfant. L'enfant qui est dans le supermarché et qui crie parce qu'il veut quelque chose, normalement, on lui apprend que ça se fait pas tout à fait comme ça, quoi. On apprend un petit peu aux enfants à vivre en société et que c'est pas leurs émotions qui pilotent tout quand même. Ces émotions ont un coût pour l'organisme, et ce coût pour l'organisme, aujourd'hui, on a l'habitude de l'appeler le stress. Alors on va voir aussi le retentissement du corps au stress. Ça va, je vous perds pas trop là ?
Non.
Bon. Alors déjà, le mot stress, on l'utilise, on recouvre deux choses. Le mot stress va recouvrir les sources du stress et va recouvrir en même temps les effets que ça a sur nous. D'accord ? Si je vous avais demandé des exemples de stress, vous auriez dit les émotions, donc on y revient, hein, positives ou négatives. Il faut savoir qu'il y a des cotations sur le stress. Je n'ai pas les psychos ce soir. Les psychos, on cote le stress. Le mariage est presque aussi fortement coté que le divorce. pas autant, mais il y a les émotions positives peuvent être son côté. Alors, ces décotations, je vais vous expliquer, c'est juste pour évaluer, parce qu'à un moment, trop de stress accumulé, on va voir que ça peut avoir des conséquences. Les traumatismes de tous ordres, que ce soit les traumatismes thermiques, c'est-à-dire quand on a eu très très froid, vous savez, vous sortez de la maison, il fait très froid, c'est un stress. Vous arrivez dans une pièce, il fait très chaud, c'est un stress. Un stress qui peut avoir un impact sur notre santé. Et puis vous avez les traumatismes physiques, la douleur, la fatigue. Vous savez que ça peut vous envahir, la douleur. Un détail, une écharde dans une main, c'est un tout petit truc. N'empêche que vous ne pouvez rien faire d'autre. En entreprise, les gars qui avaient un grain dans l'œil. Comment vous pouvez paralyser un homme qui fait 1m80, 110 kg, moi je travaille avec des chaudronniers, qui étaient là, tu peux pas faire quelque chose, tu peux plus. C'est juste un bout de poussière bien placé, d'accord ? Les traumatismes physiques, c'est aussi tout ce qui est grande douleur, mais aussi la fatigue. La fatigue est un vrai traumatisme pour l'organisme. Et puis on a tous les traumatismes affectifs. Toutes ces pertes qui vont enclencher les processus de deuil, Dina nous en a parlé. Soit les choses que l'on a perdues, soit les choses que l'on n'a pas eues, sont source de stress. Ce sont des stress qui, dans l'enfance, vont s'accumuler et peuvent avoir des retentissements. Alors, quel est le retentissement du stress sur un organisme ? Quelle que soit la source, de façon différente. Le premier retentissement, c'est que l'organisme se met sous tension. C'est-à-dire que l'âme va se concentrer soit sur l'émotion, ou alors va analyser ce qui se passe. Et souvent, cette mise sous tension va faire qu'on va réagir d'une façon ou d'une autre. C'est très basique. Hein. Vous posez la main sur quelque chose de chaud, normalement, si tout se passe bien, vous retirez la main sans même avoir le temps de réfléchir. Mais s'il fait vraiment chaud dans une pièce, qu'est-ce que vous allez faire ? Ben, vous allez commencer à enlever des épaisseurs jusqu'à temps qu'on ne puisse plus rien enlever, normalement, ou du moins jusqu'à temps que la décence intervienne. Quand vous avez une douleur, votre organisme, même votre intelligence est mobilisée à ce moment-là. On ne peut pas se concentrer quand on a mal quelque part. J'entendais quelqu'un tout à l'heure dire « j'ai mal au dos ben, », tant qu'on pense à sa douleur, on ne peut pas se concentrer. D'accord ? Et puis même, ça peut paralyser notre volonté. Mais normalement, après un temps de stress, on va récupérer. On a un retour à la normale, on a un retour à un état stable. C'est-à-dire que on s'en remet, quoi. Hein? Faut du temps, quelquefois, dans certains domaines. Quand c'est sur certains, même, enfin, dans tous les domaines qu'on a vus, quelquefois, il faut du temps. Et on s'en remet. Ne serait-ce que le froid. On a passé une période de froid il y a quelques semaines. On avait tous eu du mal à s'adapter. Et puis, quand il a recommencé à faire 5-6 degrés, on a eu l'impression qu'il faisait chaud. Parce que notre organisme s'était adapté au fil du temps. On a une capacité d'adaptation de l'organisme et de récupération. Et puis, il y a des fois où ces stress vont s'accumuler, où elles vont être trop fortes. Et là, on ne récupère plus. Et on va trouver des effondrements. Effondrements psychiques, mais qui peuvent se voir sur le physique. Ici, vous avez un schéma qui, en fait, concerne le milieu professionnel, mais on peut le mettre un petit peu dans tous les milieux. Premier effet du stress, on est en alarme, on résiste, on agit. Sauf que plus on en ramène, à un moment, on a épuisé les forces et ça consomme de l'énergie, on est sous tension, on mobilise tous nos récepteurs et du coup, on peut s'épuiser. Et c'est du coup, là, ça peut être un vrai épuisement physique. Alors, vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit, mais c'est que des gros mots de neurophysiologie. Mais c'est un article que j'ai, le ventre miroir des angoisses, qui explique, aujourd'hui, on a étudié ça, et on sait comment un stress va fonctionner au niveau du cerveau pour agir, que ce soit sur le tube digestif, que ce soit sur la vessie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous et au dernier moment, une envie furieuse d'aller aux toilettes, même si vous venez d'y aller. Eh bien, c'est physiologique. Vous êtes normal. Ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est pour celles que ça intéresse, vous pourrez venir voir les gros mots qui sont au tableau. Donc, il va y avoir un retentissement sur le corps, c'est ce qu'on appelle, nous, les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que quand l'âme est agressée, le corps peut réagir et être malade. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, chez l'enfant. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai travaillé au foyer de l'enfance. Vous savez, les enfants ne peuvent pas mettre des mots sur tout ce qu'ils ressentent. Il y a une expression qui dit « il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X ». Donc quand vous êtes un enfant, bah, les mots, vous ne les avez pas. Et quand je travaillais au foyer de l'enfance, j'ai vu un certain nombre de choses. J'ai vu des enfants, dans l'après-midi, on lui annonce que son père était parti en prison. Dans la nuit, il nous a fait une otite, c'est pour ça que je l'ai su, parce qu'on m'a appelé en tant qu'infirmière. La consigne à l'époque où j'y étais, et que c'était moi qui étais censée contrôler les menus, la consigne était de dire le dimanche soir, c'est nouilles jambon. Ça y est toujours. Vous savez pourquoi ? C'est un enfant qui revient d'un week-end en famille, même si la famille est la plus terrible qui puisse exister, c'est violent de revenir au foyer. C'est une collectivité, puis je peux vous dire qu'ils ne sont pas de cadeaux entre eux. Et même les meilleurs éducateurs ne remplaceront jamais l'affection de parents. Et donc, ce qui se passait le vendredi soir, c'est que si vous donniez aux enfants quelque chose, autre chose que du nouilles jambon ou purée jambon, soyons fun, ils risquaient de le vomir. Et ça m'est arrivé. Enfin, moi, mais des scènes d'enfants le dimanche soir qui vomissaient en arrivant. Donc, comme les éducs ont autre chose à faire, on met des nouilles jambon, ça passe à peu près. Chez l'enfant, les troubles sont assez systématiques. Vous avez des enfants qui vont faire de l'eczéma, vous avez des enfants qui vont faire un certain nombre de choses qui vont impacter leur corps. Le souvenir le plus marquant que j'ai eu, c'est un bébé de 3 mois que je suis allée chercher à la maternité à l'époque. Je suis allée le chercher parce que cet enfant était retiré à sa famille, il était anorexique. 3 mois. Tout simplement parce que cet enfant n'avait pas l'amour de sa mère. Et depuis, enfin, on sait aujourd'hui qu'un enfant qui manque d'amour, un enfant qui est maltraité, va être un enfant qui va avoir un problème dans sa croissance. Mon boulot consistait à les prendre en charge sur le plan de la santé, et je tenais à jour les carnets de santé. Et toutes celles qui ont été maman, vous avez vu sur les carnets de santé, il y a des dérivations, c'est-à-dire que voilà. Et l'enfant, il est mieux qu'il reste dans sa dérivation. Et nous, on avait des enfants, quand ils arrivaient, ça faisait quelques temps que ça n'allait pas bien, parce que quand ils arrivent au foyer, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans les familles d'accueil, c'est un petit peu trop compliqué. Donc, on voyait qu'ils cassaient, il y avait une casse, alors, ils rétrécissaient pas, hein, mais au niveau de la taille, ils arrêtaient de grandir, et voire même au niveau du poids, ils maigrissaient. Et au bout de quelques semaines, quelques mois au foyer, et je peux vous assurer, même avec les meilleurs professionnels, ça reste, c'est pas l'idéal, hein, eh bien, ils retrouvaient leur courbe staturo-pondérale. C'est-à-dire que s'ils avaient arrêté de grandir, à un moment, leur taille revenait dans la courbe. C'est-à-dire que non seulement ils recommençaient à grandir, mais ils reprenaient leur dérivation standard d'origine. C'est-à-dire que chez l'enfant, c'était, fallait en tenir compte, ça faisait partie c'est là que j'ai appris, que ça faisait partie du soin, c'était pas que de la technique, il fallait vraiment accompagner ces enfants qui ne pouvaient pas parler. Et puis les adultes. Alors ça, les adultes, on le voit, j'en ai vu beaucoup au travail, j'ai été amenée à accompagner des burn-out. Les maladies psychosomatiques, ça peut aller jusqu'à l'infarctus, ça peut aller sur les troubles musculo-squelettiques. Je vais vous raconter une expérience personnelle en parlant de troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques, vous savez, c'est les douleurs dans les articulations qui font qu'il y a des gens qui sont en invalidité pendant plusieurs semaines, qui ne peuvent pas travailler. J'ai mon jeune frère qui s'est marié dans cette église et c'est moi qui ai fait chanter le groupe de la chorale. Alors, j'étais stressée, évidemment, et je me suis mis une pression sur le dos, là où personne ne me l'avait mis. Je reconnais que je me la suis mis toute seule. Faut dire que le clavier s'était mis aussi la pression, et le chant, qui normalement aurait duré 4 minutes 15, je pense, on a réussi à le faire en 3 minutes 30. La pression, en fait, je l'ai mesurée qu'après. Je dirigeais le groupe avec le rythme, les chants, les garçons, les filles et tout. 3 minutes 30. Hein. J'avais dans mon dos, d'un côté, ma famille, de l'autre côté, la famille de ma belle-sœur. Et je me suis mis sous tension. Et vous savez quoi? En 3 minutes 30, à faire ce mouvement-là, dans la nuit, quand on s'est couché, évidemment, après la fête, j'ai une douleur qui est partie de la nuque jusque dans le bout du doigt. J'ai fait une tendinite. Et comme ma fille avait 3 mois à l'époque, je peux vous dire que la tendinite m'a tenue un moment, en 3 minutes 30. Là où, tous les dimanches précédents, on avait fait des répétitions qui duraient une demi-heure, trois quarts d'heure, et je ressortais dans un état tout à fait banal. Mais je me suis mis cette pression sur le dos, à tel point que j'ai piloté un muscle qui était sous tension. Tirer sur un élastique déjà tendu, vous allez voir, ça casse. D'accord ? Et cette tension, on ne me l'a pas demandé, c'est moi qui me la suis mis. Et ça aurait, j'aurais pu faire la même chose sans tension, je pense que, d'accord, alors ça serait tombé aussi bien. D'accord ? Des fois, c'est nous qui nous mettons cette tension. Et puis, on sait aujourd'hui qu'il y a des maladies telles que le cancer qui peuvent se déclencher sur un traumatisme psychique. Il y a des études aujourd'hui, les psychosomatiques, on connaît les effets, on commence à peine à comprendre les causes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le psychosomatique, c'est quelque chose qui... c'est quand l'âme retentit sur le corps. Et puis, dans le burn-out aussi, vous comprenez qu'il y a aussi la possibilité de la dépression. C'est-à-dire que les personnes, elles sont dépassées par les événements, et là, c'est le cerveau qui ne fonctionne plus, qui refuse de fonctionner, et c'est tout le corps qui est... Alors, refuse de fonctionner, j'entends. Il va refuser de réfléchir, il va refuser de se battre, il va refuser d'aller de l'avant, il est dépassé par les événements, et c'est tout le corps qui va, à ce moment-là, le payer. Et il y a des dépressions qui sont masquées, c'est-à-dire qu'on pense que la personne déprimée, c'est quelqu'un qui se traîne, qui est triste et tout. Mais vous avez des dépressions qui se masquent ailleurs. Vous avez des dépressions qui sont dans d'autres parties du corps, et on ne fait pas le lien. Alors on va parler d'une dépression qui est dans la Bible, un homme qui s'est... qui a craqué, Élie. Élie, il a vécu un enchaînement d'événements. Alors, je vous les énumère. Il a d'abord vécu, vous savez, l'histoire de la veuve de Sarepta avec l'huile et la farine qui n'arrête pas pendant 3 ans. On en rêve. Vous imaginez, pas de supermarché pendant 3 ans. Le miracle au quotidien. Ensuite, il y a une maîtresse de maison qui va le recevoir chez lui en lui disant « Mais attends, vous savez, elle avait fait construire une maison sur un toit pour lui. » Et le fils qu'elle a eu suite à une bénédiction est mort. Et là, il va être très agressif vis-à-vis d'Élie. Et Élie va prier pour cet enfant. Et cet enfant va ressusciter. Ensuite, il va y avoir le Carmel. Alors le Carmel, c'est quoi? Vous savez, c'est quand il va réunir les prêtres de Baal. Et que les prêtres de Baal vont demander au feu du ciel de descendre. Et il va leur dire, celui sur qui le feu va descendre, le Dieu qui fera descendre son feu est le Dieu le Tout-Puissant. Donc les prophètes de Baal vont essayer, ça ne marche pas. Vous pourrez relire ça, hein, c'est dans 1 Roi 18. Et Élie va faire un autel en y mettant en mettant de l'eau dessus, enfin ben voilà. Et le feu va descendre. Et donc, le Carmel, ça va être une victoire. C'était un combat spirituel en public et une victoire éclatante. C'est-à-dire que là, on est sur du stress très positif. Le combat spirituel, ça plombe, ça crève, ça fatigue. Quand j'étais adolescente, j'allais faire des marchés à Candé à l'époque, on ne se connaissait pas, devant le magasin d'Evelyne. Quand je rentrais chez moi, pourtant je ne faisais rien et je parlais à peine, mais on savait qu'on était sur une terre de combat. J'étais morte, épuisée. Et pourtant, j'ai de la ressource. Le combat spirituel, quand on passe un temps dans la prière, un temps dans le combat, on est fatigué physiquement. Ça génère de la fatigue. En public, il y a de l'émotion. Il y a vous voyez ce que je disais sur l'émotion. Et puis, une victoire éclatante. Sauf que... Et ça continue. Et puis après ça, il va dire à Acab, « Ah tiens, au fait... » Donc, le roi de l'époque, il lui dit, par rapport à la sécheresse, allez, rentre chez toi, la pluie va revenir. Vous savez quoi? La pluie est revenue. On est face à un homme de Dieu
en qui Dieu agit.
Sauf que là, il y a un grain de sable.
Il apprend.
Aujourd'hui, on dirait peut-être sur Facebook, sur Twitter, il reçoit un SMS, on ne sait pas, que Jézabel,
elle est un peu fâchée et qu'elle a menacé de le tuer.
Je vous rappelle qu'on parle du gars qui a vécu tout ça.
Et là, qu'est-ce qu'il fait ?
Il va déprimer. On va regarder ce texte. Donc, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Ici, on voit un homme qui a peur pour sa vie, qui va partir aux limites du territoire de Juda, c'est-à-dire qu'il fuit, et il laisse son serviteur. Il veut être seul, il s'isole, il se réfugie sur lui-même, et puis il s'enfonce dans le désert, et après avoir marché toute la journée, il s'assied à l'ombre d'un genêt et demande la mort. Donc il va foncer, il va se mettre à l'ombre, il demande la mort, il va arrêter d'avancer, il est seul. Et là il pense à Dieu quand même, hein, c'est un prophète, c'est un homme spirituel. Hein. C'en est trop, dit-il, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Ce gars-là, il ne connaissait pas l'Éternel, il suicidait. Et comment Dieu va agir avec lui? Alors, Élie, il est crevé, quoi. Donc, il se couche et il s'endort sous un genêt. Et il y a un ange qui le touche et qui lui dit, lève-toi et mange. Donc, il se couche. Est-ce que c'est pour mourir? On ne sait pas. Mais il va s'endormir. Et l'ange va le laisser un petit peu dormir et il le réveille. Il lui dit de manger. Et là, il a un gâteau. Puis sur des pierres chauffées, une cruche pleine d'eau, il mange, il boit et se recouche. C'est-à-dire que là, c'est Dieu qui lui fait le gâteau. Alors, je ne sais pas à quoi il était ce gâteau, mais ça devait être quelque chose. En tous les cas, c'était quelque chose pour restaurer. Et il boit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui va prendre soin de son corps, parce que Élie n'en prend plus soin. C'est Dieu qui va le relever. Ben, par contre, il faut qu'il mange. Dieu ne lui met pas dans la bouche. Dieu ne lui pose pas une perfusion. C'est-à-dire que Élie doit prendre ce que Dieu lui a donné. Et il est tellement épuisé qu'il va se rendormir. Et l'ange vient une seconde fois. Il le touche et lui dit, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Et donc il dort une deuxième fois, il mange une deuxième fois, et là il se lève. Donc il mange, il boit, et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors d'abord, on peut considérer que ça devait être copieux, à effet retard, parce que ça ne marche pas, hein, n'essayez pas de manger et que ça tienne 40 jours. Je ne sais pas comment ça s'est passé ces 40 jours, on peut envisager que c'était une provision spécifique de l'Éternel. Et où est-ce qu'il va? Jusqu'à la montagne de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'en était éloigné de cette montagne de Dieu. Et là, il va être fortifié et il va retourner à sa source. Et là, il va rencontrer Dieu. Là-bas, il entra dans la grotte, il y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? C'est-à-dire que Dieu demande à Élie, croyez pas que Dieu ne sait pas. Les miracles, il était un petit peu au courant Dieu. Hein. Croyez pas que Dieu ne sait pas ce qui se passe. Mais pourquoi il demande à Élie? Parce qu'il veut qu'il mette des mots sur ce qu'il vit. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il le sait, c'est lui qui lui a dit de venir, d'accord? Mais ce que Dieu veut, c'est qu'Élie mette des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Et les mots qu'il met ne sont pas n'importe lesquels. La réponse d'Élie. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel. Lui qui l'a défendu, probablement que l'Éternel pouvait pas se défendre tout seul, on ne sait pas. Le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et voilà qu'ils me cherchent à me prendre la vie. Vous savez ce qu'on a ici? Une victime.
On a un homme, je ne dis pas que c'est faux ce qu'il a vécu, c'est la façon dont il en parle et c'est le ressenti qu'il a à ce moment-là. En résumé, c'est injuste. J'ai tout fait et je suis une victime. Peut-être même qu'à un moment, il a pris la place de Dieu. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel. D'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais on sent que là, il s'est mis une pression. Et Dieu lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Là, l'Éternel ne lui dit pas, oh non, mais mon pauvre gars, c'est quand même pas cool ce qu'ils t'ont fait. Non, il lui dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Devant lui, soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. C'est-à-dire qu'on voit à travers ce passage que Dieu lui fait une démonstration de sa puissance. C'est pas Dieu qui déplace les rochers, qui déplace le vent. C'est pas Dieu qui fait l'ouragan. C'est pas Dieu qui fait le tremblement de terre. Mais quand ils arrivent, Dieu maîtrise. Dieu n'est pas à l'origine de toutes ces choses-là. Mais quand ils arrivent, Dieu les tient dans sa main. Dieu tient toutes ces choses-là dans sa main. Et Dieu, il est où? Il est dans ce bruissement doux et léger. C'est-à-dire que Dieu va lui faire un gros câlin d'amour. On ne s'est pas dit comme ça. Mais à ce moment-là, il a besoin d'être restauré dans l'amour de Dieu dans sa vie. Il a besoin à ce moment-là d'avoir cette douceur, cette tendresse, cette légèreté de Dieu dans sa vie. Et en même temps, Dieu lui montre que les éléments qui se déchaînent, il les tient. Il n'est pas dedans, mais il les tient. Et ça continue. Et là, Élie, quand même, il entend ça, il va se couvrir le visage parce qu'on ne peut voir Dieu et on ne peut voir Dieu et mourir, c'est-à-dire qu'il a conscience de qui il est. Il le met en pan de son manteau et il se place à l'entrée de la grotte. Et on lui demande, que fais-tu Élie ici? Et qu'est-ce qu'il va répondre? La même. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à m'ôter la vie. Vous savez quoi, Élie, il tourne en boucle. Il vient d'avoir une démonstration de la puissance de Dieu et il tourne en boucle sur sa souffrance. Je ne remets pas en cause ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que ce vécu, à ce moment-là, il est en train de s'autodétruire avec. Dans la vie, on vit des choses qui sont susceptibles de nous détruire. On vit des, je vous l'ai dit, le stress, les traumatismes. Que ce soit des attaques spirituelles ou des attaques humaines, ou même nous, des fois, on se met dans ces situations où on va vivre une souffrance et une douleur. Et si on se fixe sur cette souffrance et cette douleur, d'abord, tout notre corps va le payer, mais en plus, on est paralysé. Répond Dieu. Il lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu moindras, je vais continuer. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Demi-tour, mon gars. Et on y retourne. Et vous savez ce qu'il fait là, Dieu, avec Élie? Il lui fait faire un retour sur son passé. Il va lui dire, ce que tu as vécu, tu vas y retourner. C'est-à-dire qu'il y a des fois, Dieu nous demande, pour sortir d'une situation, d'accepter de la revisiter. Alors, pas de se remettre dans la situation, hein, je ne dis pas ça, surtout pas. Mais, psychiquement, psychologiquement, les psychologues, c'est leur travail, hein, c'est de se remettre accompagné. Souvent, quelquefois, il ne faut pas faire ça seul, parce que vous pouvez vous reperdre une deuxième fois dans la situation. Mais, et avec la grâce de Dieu, de repasser ce qui s'est passé, de ne pas l'enfouir, de ne pas l'enterrer. Vous savez, quand on se fait une plaie, si elle n'est pas bien nettoyée, et qu'on la ferme hermétiquement, qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça va suppurer, ça va faire un abcès, Et je vous donne pas les détails, mais ça peut aller jusqu'à faire la septicémie, on en meurt, d'accord, même des plaies banales. C'est-à-dire que dans nos vies, dans nos cœurs, on a eu des moments, on a eu des douleurs, on a eu des souffrances. Quelle qu'en soit la cause. La conséquence, c'est que ça atteint notre cœur, ça atteint notre âme, et souvent, ça va atteindre notre corps. Typiquement, moi, je suis quelqu'un où mon corps réagit avant que je prenne conscience de ce qui se passe. Je racontais aux filles vendredi, quand on s'est vues, j'ai subi un harcèlement professionnel très très violent avec une personne qui était manipulatrice et méchante. Ça s'est terminé que pour m'en sortir, j'étais chef de service, j'ai démissionné sans avoir de travail à côté. Ça a été discuté entre Jacques et moi en famille. La famille a prié pour moi, les leaders de jeunes à l'époque ont prié pour moi parce qu'on ne prend pas une décision comme ça. Et voilà, et puis Dieu m'a relevé, le temps est passé, il m'a redonné du travail et c'est une vraie grâce. Le temps est passé et un jour sur le forum des associations, vous savez que l'église a des stands et cette année-là le stand était tout au fond à côté des toilettes, donc il fallait que je traverse tout le forum pour aller au stand, et à un moment j'ai senti comme un coup de poing dans le ventre. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je sais comment je fonctionne, j'ai l'inconscient qui fonctionne plus vite que le conscient. Je m'arrête et je regarde autour de moi et là j'aperçois le site de l'association pour laquelle j'avais travaillé. Et probablement, mais je vous promets, je n'ai pas fait demi-tour, probablement la personne qui m'avait blessée était là. C'est-à-dire que mon inconscient a réagi avant mon conscient en me remettant, heureusement ça a été que là, parce que cette douleur sur moi, d'accord? C'est-à-dire que les douleurs, l'inconscient, ça tourne en boucle. Vous savez, si on ne les évoque pas, si on n'en parle pas, si on ne met pas des mots dessus, ça va rester à l'intérieur, et comme un iceberg, hein, il va y avoir la partie du dessus que tout le monde voit, tout va bien, et en dessous, vous pouvez avoir un énorme truc qui tourne en rond, ça tourne en boucle, et particulièrement quand on se positionne en victime, on ne s'en sort pas. Parce que tant qu'on est victime, on n'est plus acteur. Et Dieu veut une armée debout. Et donc là, Dieu non seulement va lui dire « retourne sur tes pas », à travers le désert, il ne lui promet pas le Club Med, hein. À travers le désert, ça peut être difficile, on peut se faire accompagner. Là, Dieu ne lui lâche pas la main, je vous l'assure. Il va l'accompagner et il va l'aider à en sortir de ce désert. Vous savez que les Hébreux ont tourné 40 ans. Hein. Là, il va en sortir. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Ben, mon gars, t'as pas fini. Hein. C'est pas la peine de demander la mort, moi j'ai du boulot pour toi avant. Donc tu vas oindre Hazaël comme roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu comme... comme roi d'Israël, tu oindras Élisée comme prophète pour te remplacer. C'est-à-dire que Dieu lui dit, attends, tu avais une œuvre à faire, tu n'abandonnes pas. Et moi, je vais te donner l'onction nécessaire pour pouvoir bénir ces gens-là. Et il lui fait une promesse qui est assez exceptionnelle, qui lui dit, tous ceux qui échapperont à l'épée d'Azraël seront mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. C'est-à-dire que là, Dieu a un plan pour Élie. Un plan qui tient la route, qui maîtrise. Dieu a un plan qui est écrit, tout prêt. Mais il faut qu'il y aille. Il lui dit, avance. Il lui dit, tu vas leur donner l'onction. S'il leur donne l'onction, c'est que Dieu a fait la provision. D'accord? Mais attention, il n'y est pas allé tant qu'il était en état de détresse profonde. Il faut un temps de restauration. Il y a des fois, on voudrait ne pas voir ce que Dieu nous montre et agir. Mais il faut laisser Dieu nous guérir, nous cicatriser. Et après, il nous envoie. Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Dieu ne nous envoie pas alors qu'on est moribond à l'infirmerie. Mais à l'infirmerie, je m'avais dit une fois un employeur, l'infirmerie, c'est pas là qu'on travaille, hein. Oui, je sais, merci. Puis ça ne tiendrait pas la place parce que j'étais dans des entreprises de plus de 300 salariés, donc forcément. Mais il fallait que les gens retournent bosser. Il y a des fois, ils partaient en ambulance. Mais là, Dieu lui dit, tu y vas, je t'ai restauré. Et maintenant, tu y vas. C'est pas, tu y vas et je te restaurerai. D'accord? Je ne dis pas qu'il faut être à 100, il ne faut pas attendre d'être parfait pour aller servir Dieu. Parce que sinon, on n'ira jamais. Regardez les disciples, ils étaient très loin d'être parfaits quand Jésus les a envoyés. Mais avant de les envoyer, il les a gardés 3 ans en apprentissage, théorique et pratique, en internat, non-stop 24-24. Bah, ils ont accompagné Jésus, c'était de l'intensif. Hein. C'est pas... Et pourtant...
Donc, là, ils vont. Il va y aller.
Et vous savez ce que Dieu lui dit après? Petit clin d'œil, parce que je pense que Dieu a beaucoup d'humour.
Ah, en fait, j'ai oublié de te dire. J'ai parlé en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal, qui n'ont jamais baisé de leurs lèvres.
Tu te croyais seul? Une poille. Ils sont 7000. Tu n'es pas seul, Élie. Élie était au fond de son trou. Et je ne le juge pas, hein, parce que je n'ai pas passé ce qu'il a passé. Je vous ai dit, le stress, ça fatigue. Et puis, quelquefois, on se met des pressions que Dieu ne demande pas. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul à combattre, il n'est pas seul à se battre. C'est-à-dire que des fois, Élie, là, ce qu'il a oublié, tout simplement, un détail. Il a oublié que le Dieu qui a fait tous les miracles par sa main, c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui tient toutes choses dans ses mains. C'est le Dieu qui nous a créés, mieux que mon bonhomme en plastique, parce qu'il nous a créés vivants, il nous a créés corps, âme et esprit. Il sait ce dont on a besoin. Et il sait qu'on a besoin, effectivement, on ne peut pas être seul. Il nous a fait il a fait de nous des êtres sociaux. En ce moment, on l'entend suffisamment. L'Église est un lieu de communauté où Dieu restaure, est un lieu où on peut prier les uns pour les autres. Et une des armes de l'ennemi, c'est de croire, de nous faire croire qu'on est seul dans la situation où on est. Les gens que j'accompagne dans mon boulot, donc ce sont des personnes qui ont des dépendances, et des fois je leur dis, vous en avez parlé avec votre famille de votre démarche de venir me voir, enfin nous voir, parce qu'on est plusieurs et on travaille à plusieurs. Bon, ben non, ils savent pas. Je leur dis, écoutez, on sait jamais, présentez-le du côté de, bah, ça a été mal, mais je me soigne. Et vous savez quoi, les gens, ils reviennent et me disent, ils s'en étaient aperçus. Quelquefois, et c'était le cas hein, quand je vous dis que j'ai travaillé avec cette personne méchante et très perverse. C'est mon entourage à un moment, Sandrine, qui me dit « Tu sais, Marie-Lou, tu deviens invivable. » Jacques qui me glisse une offre d'emploi. Je croyais que je tenais. Je croyais que j'y arrivais. Mais j'étais en train d'y laisser ma santé. Ça s'est terminé aux urgences de cardio, hein, avant que je décide de faire quelque chose. Des fois, notre entourage nous alerte, nous prévient. Notre corps nous alerte, nous prévient. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu nous aime, il ne veut pas nous laisser dans l'état où on est. Dieu nous aime, et vous savez quoi? Dieu veut que nous aimions notre corps. Dieu veut que nous prenions soin de notre corps. Dieu nous a fait responsables de notre corps. Et continuer alors qu'on est en train de s'auto-détruire, ce n'est pas aimer ce que Dieu a fait de nous. Ce n'est donc pas aimer Dieu. Dieu, il va nous mettre des signaux d'alerte dans les situations où on vit. Et il va, face à ces signaux d'alerte, s'il fait ça, ce n'est pas pour nous culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est génial pour terroriser quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui est culpabilisé, c'est quelqu'un qui se dit « je suis trop mauvais pour que Dieu m'aime. Je suis trop mauvais pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. » La culpabilité saine, c'est celle qui nous amène à la repentance et à demander à Dieu de nous restaurer. À partir du moment où on s'est repenti, Dieu nous a pardonné et on doit se pardonner. Il y a des personnes qui ont fait des choses qui les condamnent et que du coup, ces personnes-là, elles portent ça comme un poids sur leurs épaules. Et vous savez, vous avez des personnes, elles portent un poids sur leurs épaules, elles sont voûtées, elles sont pliées. Il y en a, c'est physiologique, il y en a, c'est psychique. C'est-à-dire qu'elles ont ce poids sur les épaules. Ça peut être le poids de la culpabilité. Ça peut être un poids de choses qu'on leur a fait vivre dans le passé. Ce poids, Dieu, il veut le pointer. Non pas pour en ajouter une petite couche, d'un air de dire, non, je vais laisser un peu plus bas. Non, ce qu'il veut, c'est ôter ça, restaurer le corps pour que les personnes soient debout dans son armée. C'est ce que je disais. Notre corps peut subir les conséquences des agressions faites à notre âme. Dieu peut guérir nos corps. Et il faut aussi qu'il guérisse l'âme. Et pour ça, il veut restaurer l'esprit qui est dans nos vies. C'est-à-dire que non seulement il veut guérir, mais comme ces cadavres, il veut aussi remettre le souffle. Parce que c'est de ce souffle que va venir la guérison. Il peut guérir l'extérieur, mais c'est de ce souffle qui va venir la guérison. Aujourd'hui, dans notre société, je suis bien placée pour le savoir, parce que je suis infirmière, on va soigner le corps. Et puis on s'est aperçu qu'il se passait des trucs dans la tête. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de l'âme. On a des psychologues, on a des psychothérapeutes, on a tout un tas de personnes qui vont accompagner les personnes. Moi, je travaille avec des éducs, avec tout un tas de personnes qui vont travailler pour essayer d'aider les personnes au niveau de l'âme. Mais la société, aujourd'hui, nie l'esprit. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la spiritualité, alors peut-être un petit peu le bouddhisme, mais en tous les cas, Dieu, non. Sous quelque forme que ce soit. Il nie l'esprit. C'est-à-dire que les personnes, on peut arriver à un certain point, mais souvent, les personnes me disent, je me sens comme un vide à l'intérieur. Et là, moi j'ai un verset qui me vient en l'esprit. Dieu a mis, c'est Voltaire qui dit, Dieu a mis un vide en forme de Dieu. Hein? Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Ça, c'est dans la Bible. Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Tu m'étonnes que ça fait vide. Si tu enlèves l'éternité, ça fait un sacré trou. Comment Dieu voit les choses, lui? Dieu, il veut restaurer notre esprit. Il veut le rendre vivant. Et cet esprit qui est restauré, il va nourrir l'âme. Et cette âme qui est restaurée, elle va influencer le corps. C'est-à-dire que Dieu veut nous restaurer dans notre esprit. Mais ça, c'est pas magique. D'accord ? C'est un processus, comme je vous l'ai dit au départ. C'est un processus de reconstruction qui nécessite, qu'on accepte ce que Dieu nous montre, mais qu'on s'engage à lui demander la restauration. Ça veut dire qu'il ne fera pas ça malgré nous. Il faut qu'on accepte de sortir de ce cercle vicieux de victime ou de culpabilité pour qu'il puisse nous restaurer. Le danger, c'est que je trouve que cette image, c'est une revue qui parle du lien entre l'esprit et le corps. Et on peut mettre en danger notre santé si on garde nous-mêmes la main sur notre souffrance. Dieu veut qu'on lui donne notre souffrance. Il veut qu'on lui remette notre souffrance pour pouvoir, et qu'on le fasse avec des mots. Lisez les psaumes. David, il n'hésitait pas à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Mettez des mots sur l'injustice, mettez des mots sur vos douleurs et vos souffrances. S'il le faut, écrivez-les, et on l'a fait quelquefois avec les jeunes, en week-end de jeunes, mais écrivez-les et déchirez-les dans le nom de Jésus. Allez voir des gens qui ont des compétences pour vous accompagner. Allez voir des gens qui vont pouvoir vous aider à en sortir. On est plusieurs dans l'église et dans ce groupe de responsables avec les femmes. On peut prier pour vous, on peut vous accompagner. Si c'est trop compliqué, on va vous adresser. Mais vous avez le choix entre les souffrances qui vous ont cassé, brisé, entre rester à les regarder dans les yeux et à tourner en rond, ou les lâcher à Dieu, accepter le cheminement par lequel il faut passer. Et je vais vous dire un truc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se tenir debout sur les pieds. Ça vaut le coup d'aller de l'avant. Une autre fois peut-être. On parlera aussi des souffrances sur le corps qui peuvent influencer l'âme et l'esprit. Parce que ça va dans les deux sens. Ce que je vous propose maintenant, c'est un temps de prière. Et puis, comme on avait convenu, on va rechanter « Longue est la nuit ».